Voici les titres du journal.
C'est un projet colossal pour la coopérative brassicole La Mine. L'aménagement des nouveaux locaux de la brasserie Bellerine a démarré hier. Ils accueilleront un restaurant et des cuves permettant de produire plus de 100 000 litres de bière par an. Le Grand Conseil Valaisan est entré en matière hier sur un crédit d'engagement pour la mesure prioritaire de troisième correction du Rhône dans le Chablais. Colombey-Murat organise deux soirées d'information sur son plan de zone et son règlement de construction. La commune espère entendre l'avis de la population avant d'aller plus en avant avec ce dossier. Puis on l'a appris ce matin, l'Autriche confine sa population et rend la vaccination obligatoire. Des mesures comme celles-ci ne sont pourtant pas prévues pour la Suisse, même si des disparités existent entre les cantons. Et enfin, en ski alpinisme, Morgin va accueillir une étape de Coupe du Monde cet hiver. La station chablaisienne sera l'unique rendez-vous helvétique du calendrier.
Et pour la météo, un temps ensoleillé pour aujourd'hui, un temps ensoleillé également pour demain, avant l'arrivée de nuages pour la journée de dimanche. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Quentin Frey. Bonjour Quentin.
Bonjour. La brasserie locale La Mine connaît un nouvel essor. À l'étroit depuis plusieurs mois dans ses locaux actuels, la coopérative Bellerine se prépare à déménager. Direction l'entrée de la cité de Celles, côté Saint-Maurice, pour investir une surface de 600 m². Pour l'instant, le bâtiment de l'ancien dépôt de la COP est encore vide. Les travaux ont démarré hier. Et d'ici à la fin du printemps prochain, La Mine entrera dans une nouvelle dimension puisqu'elle proposera également un bar-restaurant avec vue directe sur les nouvelles cuves. C'est une personnalité de la région qui est à l'origine de ce projet ambitieux. Écoutez le récit du président de la coopérative brassicole La Mine, Michael Dupertuis.
C'est une rencontre avec Victor Bavot, qui est le patron du Café des Alpes à Grillon, qui est en plus le premier restaurant qui avait pris notre bière exclusive. Donc on a fait une recette que pour lui sur place. Et puis il faut dire que c'est presque une histoire d'amour, parce qu'on s'est rencontrés, on aime les mêmes choses, on aime le côté festif, le partage entre amis. Et puis lui, quand on lui a parlé du fait qu'on avait envie de faire ce restaurant, il a directement sauté dans le bateau, si je puis dire, et puis il nous a dit, mais pourquoi pas faire vraiment un restaurant à côté de la brasserie, où les gens qui viendraient sur place auraient une expérience, ne seraient pas juste là pour manger un plat, mais aussi pour voir comment ça se passe, la production de la bière, et puis de créer ce lieu-là aussi pour nos coopérateurs, puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes 150, plus de 150 à travers la Suisse, et que nous n'avions pas de lieu approprié pour les accueillir. Tandis que là, on aura notre lieu à nous, et aussi à toutes les personnes qui ont envie de venir passer un bon moment festif chez nous.
Et le nouveau lieu permettra de multiplier la production de bière par 5 dès la première année, puis à terme par 10. Il aura aussi une vocation touristique et culturelle, un impact économique également, puisqu'il offrira de nouveaux emplois. Ne s'éloigne-t-on alors pas un peu trop de la petite coopérative créée il y a 5 ans par une poignée de Chablaisiens amateurs de houblon? On écoute la réponse du président de La Mine, Michael Dupertuis.
On a créé une société anonyme qui appartient à la coopérative, parce que dans cet esprit-là, on a vraiment voulu séparer les choses. Alors oui, nous devrons être rentables, donc nous avons des emplois, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas jouer, il faut que ça puisse tourner. Mais de l'autre côté, la coopérative elle-même restera ce côté festif avec des coopérateurs qui peuvent rentrer, qui peuvent acheter des parts sociales, qui peuvent participer comme ils le souhaitent sans aucune pression. Et ça, ça va rester complètement. Donc à mon avis, on a trouvé la bonne solution entre le côté qui doit être rentable avec une société et puis de l'autre côté, l'aspect coopératif. D'ailleurs, on garde l'ancien lieu de production parce que là, on va pouvoir continuer à faire des petits brassins entre coopérateurs, entre nous, des recettes qui nous plaisent et nous distribuer les bières avec les coopérateurs seulement.
Voilà, au total, le projet est devisé à 1,8 million de francs. Pour leur permettre de boucler leur budget, les coopérateurs ont lancé aujourd'hui une opération de financement participatif. C'était un sujet d'Alexandra Claude.
La troisième correction du Rhône dans le Chablais sur la table des députés au Grand Conseil valaisan.
Et oui, ils ont approuvé hier par 112 voix contre 14 et une abstention un crédit d'engagement en ce sens. Ce dernier est destiné à la première étape de la mesure prioritaire sur le territoire des communes de Massonger, Montet, Colombey-Murat, Vouvry, Baie, Ollon, Aigle et Yvorne. Conseiller d'État chargé de la mobilité, du territoire et de l'environnement, Franz Ruppen a rappelé aux députés qu'avec les crues du Rhône, on risque des milliards de francs de dégâts potentiels, mais aussi qu'il y a des milliers de personnes à protéger.
C'est comme ça, il y a beaucoup de dégâts concernant les villes, les sites industriels, mais il faut aussi protéger les gens et les biens. Et c'est la raison principale du projet de Rhône, la sécurisation des humains et des biens. Mais après, avec la nouvelle organisation, la nouvelle gouvernance que j'ai mis en route, avec les comités pilotage, les comités de projet, il faut aussi tenir compte des autres intérêts qui sont autour du Rhône. Il faut faire dire, une pesée d'intérêt. Il y a la sécurité, il y a bien évidemment dans le Chablais toute la question qui se pose de l'agriculture, les sols d'assolement. Il y a les berges du Rhône, les pistes cyclables, il y a les bâtiments, les ouvrages d'art, la biodiversité. Alors, il y a beaucoup d'intérêt. Et après, dans les comités de pilotage, les comités projets, ils font tronçon par tronçon, il faut faire la pesée d'intérêt.
Voilà, tronçon par tronçon, avance Franz Ruppen. Il n'empêche, la députée PLR montézanne Fabienne Rime se dit inquiète pour les terres agricoles dans le Chablais, mais aussi pour la nappe phréatique à Monté.
Oui, on est quand même inquiet parce qu'il y a quand même au niveau du terrain une grande différence avec le crédit qui a été voté précédemment pour Sion-Vétro. Et c'est vrai que Franz Ruppen est très très volubile et très enthousiaste par rapport à son changement de service. Mais ben, la nappe phréatique, elle est très importante, les terres agricoles sont très importantes. On est un terrain dans le Chablais où il y a beaucoup de paysannerie. C'est très important, il y a beaucoup de petits projets qui se mettent en place. Et ce puits près des Mangettes a déjà été mis en exergue il y a quelques années en arrière, quand déjà la route de contournement était sur le projet de Monté-Colombey. Et c'est vrai que là, ça posait déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements par rapport à la hauteur des routes, des sentiers qu'on faisait pour atteindre les Mangettes. La Gouille a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de prélèvements pour savoir par rapport à la faune, par rapport aux sentiers didactiques. Donc, de l'enthousiasme, il y en a, de la crainte, il y en aura toujours, et surtout, je pense, beaucoup de surveillance. Beaucoup de surveillance par rapport à ça pour que, malgré les avis de M. Ruppen, entre guillemets, il y ait vraiment tous les acteurs autour de la table pour pouvoir discuter de tout ça.
Et précisons que le coût total de l'étape que nous venons d'évoquer se monte à 130 millions de francs. Une fois déduites les parts fédérales, vaudoises et communales, il restera 26,25 millions de francs à la charge du canton du Valais. C'était un sujet signé Yves Terrani.
Colombey-Roux, des Colombey-Roux peuvent noter dans leur agenda les 23 et 24 novembre.
La commune leur propose 2 soirées d'information sur le plan d'affectation des zones et sur le règlement des constructions. La commune espère pouvoir échanger avec la population en lui présentant le projet et en écoutant ses remarques et questions. Le PAS ne compte pas tout révolutionner, mais tourne autour d'une série d'objectifs, comme l'explique le municipal chargé de l'aménagement du territoire et des constructions, Alexis Turin.
Il y a plusieurs grands axes. Le premier, c'est qu'on ne va pas agrandir la zone à bâtir. Le deuxième, c'est qu'on va maintenir les terres agricoles qu'on a sur notre territoire. Le troisième, c'est qu'on va un peu plus développer la relation entre la montagne, le pied du mont et le Rhône. La quatrième, eh bien, c'est qu'on va réfléchir comment s'organiser autour d'une nouvelle gare qui va apparaître à Colombey-le-Grand. Et puis, je dirais, le dernier point, pour rester dans les points très, très généraux, c'est de proposer une requalification de toute la zone raffinerie actuellement qui ne sera plus une raffinerie.
Et l'autre objet en discussion, c'est le règlement des constructions inséparable du PAS. On retrouve Alexis Turin.
La révision, elle a 2 aspects. Le premier, c'est un plan où dessus on a des couleurs. Une zone villa, une zone de locatif, une zone artisanale, et ainsi de suite. Et puis le règlement, en fait, il explique qu'est-ce qu'on a derrière ces couleurs. Alors on ne va pas, lors de ces soirées, présenter le règlement dans le détail, mais on va présenter des gros axes. Et surtout, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir le retour de la population qui va nous dire, par exemple, je ne sais pas, si dans les zones villa, si elle estime qu'on doit permettre beaucoup plus de logements qu'on le permet aujourd'hui, ou si les distances aux limites, ils estiment que non, on devrait avoir moins de distance. Voilà, des choses comme ça, concrètes, au niveau des places de parc.
Et puis à savoir encore que le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ces séances d'information, mais la commune organise des tests rapides à l'entrée, à ses frais, afin que les personnes non vaccinées puissent prendre part à une de ces soirées.
L'armée recycle certains de ses engins dans le Chablais.
Et oui, et c'est dans la zone industrielle Bovéry de Colombey-Murat toujours que s'est déroulé le chantier. C'est un dossier que nous propose Guillaume Abbé.
220 véhicules de l'armée ont été démantelés pour être recyclés et le chantier a duré près de 2 ans depuis janvier 2020. Et c'est à Colombey-Murat que véhicules de transport et obusiers blindés ont rendu les armes. La société Thévenin-le-Duc SA, spécialisée dans le recyclage, a remporté l'appel d'offres de l'armée. Pour la société, l'élimination des déchets, c'est son affaire, mais démolir du matériel militaire nécessite quelques précautions supplémentaires. Écoutez les explications de Frédéric Leimgruber, responsable commercial chez Thévenin-le-Duc SA.
On a l'habitude de démolir des choses, on a l'habitude de démolir ces matières, mais pas avec les exigences de l'armée, parce que l'armée a des exigences de traçabilité militaire qui ne sont pas des traçabilités environnementales, mais plutôt documentaires.
C'est-à-dire,
par exemple, chaque char doit être numéroté spécifiquement et des découpes spécifiques doivent être faites avec des photos pour prouver qu'on a bien démoli, par exemple, un canon, une chenille, une tourelle, tout du matériel qui pourrait repartir et être utilisé à des fins que l'armée ne veut pas.
Comme par exemple tomber dans de mauvaises mains et se trouver malencontreusement sur des fronts actifs actuellement. Avant d'acheminer ces engins obsolètes vers la démolition, l'armée a dû faire en sorte qu'ils soient sans danger pour les employés de Thévenin-le-Duc SA chargés de la destruction. On retrouve Frédéric Leingruber.
L'armée a démilitarisé au niveau militaire, c'est-à-dire des cartouches, des armes. Plus rien n'est fonctionnel. Mais par contre, certaines pièces qui sont encore sur le char pourraient être démontées et utilisées comme pièces détachées ailleurs.
Comme le moteur, le chauffage ou le barbotin, sorte de roue engrenage qui entraîne les chenilles d'un véhicule, des pièces auxquelles il faut faire très attention. Ensuite, elles pourront être recyclées et démarrer une nouvelle vie. Frédéric Leingruber.
La ferraille va être acheminée par le rail à Écublens dans notre entreprise principale où une grande partie va passer dans un broyeur et ensuite à nouveau par le rail dans l'aciérie de Stahlgerlafingen. Cette aciérie va faire du fer à béton, donc un char peut finir dans une de nos maisons, dans un mur, d'un pont ou autre.
Et une partie qui va partir en Italie également, qu'est-ce qui va être fait là-bas?
Ça c'est la partie métal-aluminium. Le métal va finir en Italie dans une fonderie et on va refaire des lingots d'aluminium qui pourront être utilisés pour toute application d'aluminium dans une voiture ou dans d'autres pièces aluminium.
Donc il se peut que demain, parmi nos biens de consommation du quotidien, on va retrouver un ancien morceau de char obusé de l'armée.
Alors ce n'est pas peut-être, c'est sûr.
En tout, 162 obusiers blindés et 58 véhicules de transport à chenilles ont été détruits. Quelques 4200 tonnes de matière ont été traitées et prélevées, dont la quasi-totalité est directement réutilisée.
Voilà, c'était un dossier de Guillaume Abbé. Et pour vous faire une meilleure idée du travail de démolition, vous pouvez visionner une vidéo désormais sur nos deux pages Facebook Radio Chablais et Radio Chablais Actu, ainsi que sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. La participation à la vie politique des personnes en situation de handicap était au cœur des discussions hier à Sion dans le cadre du 4e Forum Handicap Valais. Les experts et politiciens en situation de handicap sont d'accord sur un point, pas facile pour les personnes handicapées de se faire élire. Olivier Musy, directeur d'EMERA, Conseil National.
On peut tous le constater, on a relativement peu de personnes en situation de handicap qui occupent des fonctions politiques, que ce soit législatives ou exécutives. De notre point de vue, ça tient beaucoup aux préjugés, aux représentations sociales qu'on a des personnes handicapées. Souvent, le handicap est associé à des déficiences, à des limitations, et on peine à imaginer qu'elles puissent être capables d'assumer ce genre de responsabilité, ce qui est naturellement faux. Ça peut même être une richesse d'avoir un handicap qu'il faut gérer au quotidien, qui donne tout d'un coup un regard un peu différent et qui peut être enrichissant par rapport à d'autres politiciens avec lesquels on partage un exécutif par exemple.
Et voilà, c'était Olivier Musy qui répondait à notre consoeur d'Euron FM. À l'issue du forum, les intervenants ont rappelé l'importance de faire évoluer la représentation sociale que la population se fait du handicap. Puis à l'échelle de la Suisse romande, le cas du restaurant réfractaire à Zermatt n'a pas fait des émules ailleurs en Suisse romande. Si des dénonciations pour non-respect des contrôles du certificat Covid dans des établissements publics ne sont pas rares, les fermetures administratives de cafés, restaurants ou de musées sont moins fréquentes. Des fermetures ont toutefois été constatées à Genève, Vaud et Neuchâtel. Dans le canton de Vaud, par exemple, on ne recense qu'un seul cas dans la région de Montreux pour refus de procéder au contrôle du certificat Covid. Un autre cas vaudois concerne un musée, le Fort de Chillon, à côté du château qui a aussi fermé ses portes, mais de sa propre initiative en guise de protestation contre le passeport sanitaire. Au total, 14 fermetures d'établissements ont été prononcées en Suisse romande. C'est l'information choc de ce 19 novembre. Face à la cinquième vague de contamination au Covid, le chancelier autrichien a décidé de reconfiner toute la population dès lundi et pour 20 jours, non vaccinés comme vaccinés. Et l'Autriche va rendre le vaccin obligatoire dès le 1er février. Rien de tel de prévu en Suisse. Alain Bercel a confirmé hier. Pourtant, la situation dans certains cantons est préoccupante. Les Suisses ne sont pas logés à la même enseigne face à la cinquième vague. Le détail avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
C'est une grosse tâche sur la carte qui part du centre de la Suisse et s'étend jusqu'au Liechtenstein à la frontière autrichienne. 6 cantons ont une incidence sur les 14 derniers jours supérieure à 1000. Cela signifie que sur ces 2 dernières semaines, plus d'une personne sur 100 a été infectée par le virus. Ce triste hit parade des cantons les plus affectés par la 5e vague est dominé par Nidwald, incidence 1445, suivi de Schwyz, les deux Appenzell, Obwald et Saint-Gall, la Turgovie et les Grisons sont au-delà de 900. À l'opposé, la Suisse latine est beaucoup moins affectée. Le Tessin est à 204 cas en 15 jours pour 100 000 habitants. Vaud, Neuchâtel et le Jura sont sous les 300. Genève, Valais et Fribourg sous les 400. La moyenne suisse est à 564. Berne est au-dessus de 600. Les hospitalisations suivent les mêmes courbes.
Alors comment expliquer ces différences régionales inversées par rapport à l'automne 2020 ? On retrouve Serge Jubin.
Il y a bien sûr le taux de vaccination par canton. Encore qu'il faille être nuancé, Nidwald a un taux de vaccination supérieur à celui du Jura. L'explication la plus convaincante donnée par l'épidémiologiste Marcel Tanner dans le Blick, c'est surtout dans la façon dont on a tiré les leçons des précédentes vagues, et c'est là qu'il faut voir les principaux effets. Le Tessin et les cantons romands ont eux-mêmes été très touchés, et ils ont aussi vu les ravages dans les pays voisins, en Italie et en France. Ils sont donc plus prompts à maintenir les mesures de protection, à l'inverse des cantons de Suisse centrale et orientale qui ont toujours jugé excessives les mesures prises. Ils en paient aujourd'hui le prix.
Et voilà, c'était un dossier préparé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Puis un mot de l'étranger, le Japon s'apprête à adopter un plan de relance massif d'un montant record de 56 milliards de yens, soit 454 milliards de francs, afin de donner un coup de fouet à la reprise de la troisième économie mondiale. Il s'agit du troisième plan d'aide depuis le début de la pandémie. Cet ensemble de mesures devrait être approuvé par le gouvernement plus tard dans la journée. En ski alpin, l'équipe de Suisse sera privée de Mauro Kvyatkhel et Carlo Janka pour le début des épreuves de vitesse de Coupe du Monde. Le premier nommé souffre encore des conséquences de sa terrible chute en janvier à l'entraînement. De son côté, Carlo Janka manquera lui aussi le rendez-vous de Lake Louise et Beaver Creek. Le vétéran de 35 ans est toujours gêné par des problèmes dorsaux.
Les meilleurs spécialistes du ski alpinisme vont se retrouver à Morgins cet hiver.
Et pour la première fois, la station chablaisienne va accueillir l'unique étape suisse de la saison en Coupe du Monde. Un sprint et une course individuelle seront au programme des 27 et 29 janvier prochains. Si l'élite mondiale se disputera la victoire, une épreuve populaire est également prévue sur le même parcours qui comptabilise 1600 mètres de dénivelé. De quoi permettre à tout un chacun de prendre part à la manifestation, car la discipline a le vent en poupe depuis plusieurs années. Cet événement au cœur du Chablais s'explique aussi par ce succès populaire. Une suite logique donc pour Charlie Rémermet, président du comité d'organisation.
Alors c'est certainement une suite logique, oui, si on veut. La tendance, on remarque qu'il y a toujours plus de gens qui le pratiquent, on essaye de les encadrer pour effectivement aussi éviter les conflits avec les skieurs alpins, les conflits avec la nature. Et c'est une tendance qu'on aimerait développer, mais la développer de manière, régulée, sans qu'on commence à mettre de la signalisation, mais pour éviter justement les problèmes.
Et pour l'occasion, l'association Randoski Morgin a été créée dans l'optique d'organiser la manifestation. Mais la nouvelle entité n'est pas seule dans ce projet, elle sera épaulée par Région Dent du Midi. L'organisme touristique parle d'une réelle chance, notamment en termes de visibilité pour la région. On écoute les précisions du responsable événementiel auprès de RDDM, Thomas Leparmentier.
Ça n'a pas de prix. Ça, c'est vraiment ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est que il y a un réel intérêt maintenant des médias de s'intéresser à la discipline ski-alpinisme. On le sait, le sprint notamment sera au JO 2026, c'est un honneur. L'ISMF, qui collabore justement avec Eurovision, nous ont justement parlé finalement de l'intérêt maintenant des médias de rendre le ski alpinisme spectaculaire. Nous, on va accueillir le sprint, c'est animé, il y a de l'impulsion, et donc ils faisaient le parallèle justement avec le biathlon. Eurovision nous ont dit à un moment, nous ce qu'on aimerait, c'est finalement comme le ski de fond, rendre le ski alpinisme médiatique et spectaculaire.
Voilà, c'était des propos recueillis par Ludovic Turin. Cette étape de Coupe du Monde de ski alpinisme se tiendra donc au cœur de Morgins, prévue les 27 et 29 janvier. Il s'agira de la seule course helvétique du calendrier cet hiver.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Estémédis, à la maison de santé de Colombey-Murat et son nouveau soin exclusif hydrafacial, le soin des stars. Estémédis.ch.
Quelques
quelques passages nuageux d'altitude nous sont signalés par Météo Suisse pour cet après-midi, mais ils n'affecteront pas l'ensoleillement. Il va faire jusqu'à 8 degrés aujourd'hui en pleine, 8 également à 1000 mètres et 10 degrés à 2000 mètres pour ce week-end. Tout d'abord samedi, un même type de temps qu'aujourd'hui nous est annoncé, avec quelques rares bandes stratus en pleine le matin, autrement du soleil en toute région. Et puis pour dimanche, probablement quelques bandes stratus le matin avant l'arrivée de voiles de nuages d'altitude en augmentation au cours de journée depuis l'ouest. Quelques gouttes seront possibles en soirée le long des reliefs, avec une limite de la neige qui s'abaissera vers les 1400 mètres d'altitude. Il fera ce week-end de 1 à 9 degrés en pleine, de 4 à 10 à 1000 mètres et de 8 à 10 à 2000 mètres.